Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Jean-Louis Vira. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis Vira, vous êtes président du laboratoire de la transition, entre autres, et membre actif de Écologie au quotidien. Vous êtes ici aussi pour nous parler de l'organisation qui a commencé, pour ainsi dire, depuis début novembre, fin octobre, d'un forum jeunesse. Vous pourriez peut-être nous préciser en quoi consiste ce forum ?
Bien volontiers. Alors, il faut faire un tout petit historique. C'est que dans nos actions militantes, dans nos actions de communication, on nous reprochait beaucoup de tirer la sonnette d'alarme sur la gravité de la situation concernant le climat, la biodiversité et en même temps la justice sociale, et à tel point qu'on nous reprochait de saper le moral des jeunes et que, par conséquent, notre façon de tirer la sonnette d'alarme n'était pas la bonne. Alors, je dois dire que j'ai un point de vue nuancé et ferme en même temps, en ce sens que j'entends bien, c'est vrai, c'est une vraie question, et vous allez voir que je l'ai prise en compte, nous l'avons prise en compte, mais en même temps, on ne peut pas se cacher une réalité extrêmement grave, extrêmement inquiétante. Et donc, effectivement, la difficulté, c'est de pouvoir à la fois faire un état des lieux sans complaisance, et effectivement très inquiétant, et en même temps réfléchir, trouver, identifier des pistes, des perspectives de vie qui offrent de l'espoir, même de l'espérance, pour en particulier nos jeunes. Je dis ça parce que moi, à 75 ans, je dirais les dés sont jetés, j'ai pas de soucis. Mais je suis évidemment très soucieux pour l'ensemble de notre jeunesse, parmi lesquels mes 10 petits-enfants, mais toute notre jeunesse et même leurs parents. Donc la question était vraiment d'importance. Alors, du coup, cette interpellation a été tout à fait positive, en ce sens que nous sommes dit, eh bien, il faut qu'on réfléchisse avec les intéressés à ce que pourrait être un avenir qui fasse envie à nos jeunes, sans pour autant nier les graves réalités en face desquelles nous sommes. Et voilà comment nous avons été amenés à lancer un projet qui n'en est qu'à ses débuts, puisqu'il a commencé au printemps dans une première phase, qu'il se poursuit actuellement. C'est un projet qui s'appelle MOBITER, Mobilisation territoriale pour un futur désirable, et dont la pièce maîtresse à l'heure actuelle, ce sont ces forums jeunes qui se déroulent donc depuis le mois de mai dernier, mais plus précisément dans une nouvelle phase depuis fin octobre, début novembre.
Alors comment se déroulent ces forums? Comment sont-ils organisés?
Eh bien, on a une initiative complète, c'est-à-dire que nous avons pris contact avec un certain nombre d'établissements scolaires au sens large. Je dis bien au sens large parce que nous avons voulu toucher aussi bien l'enseignement classique, public ou catholique, que des enseignements plus professionnels, en particulier les MFR et les CFA de notre vallée. Et donc c'est intéressant parce que nous touchons un public extrêmement divers et on le retrouve bien dans les différentes animations. Donc on a pris contact avec les établissements. On s'est mis d'accord sur l'intérêt et les modalités de ce genre d'animation. Animation qui se fait en deux temps. Une première demi-journée où on travaille avec des méthodes pédagogiques que j'expliquerai après qui permettent de faire l'état des lieux, la gravité de la situation, comprendre les causes du réchauffement climatique en particulier et la responsabilité humaine qui aujourd'hui ne fait plus aucun doute, surtout après le rapport du GIEC du 9 août dernier. Et une deuxième demi-journée qui permet aux jeunes d'explorer les pistes d'action ou de comportement qu'ils peuvent adopter. C'est un choix évidemment très personnel. Occasion de réfléchir à la fois à ce que je perds et ce que je gagne. Et bien évident, quand on demande un effort, je prends de la viande par exemple. Si je dis je mange moins de viande, c'est pas, si j'aime la viande, ce n'est pas très drôle. Bon, eh ben, qu'est-ce que je gagne de l'autre côté qui va pouvoir me motiver? Donc on est dans cette logique pédagogique. Avec, au débouché de cette deuxième demi-journée, un moment tout à fait particulier de réflexion sur l'incidence que ça peut avoir sur le choix d'études ou de métier, de telle manière à ce qu'on soit en prise directe avec les réalités de nos jeunes. Peut-être sur le plan de la méthode pédagogique, je pense que ça vaut le coup que je le signale, parce que nous avons fait tout au long de l'année, et en particulier depuis cet été, un très gros travail de conception d'outils très interactifs. Pour le décrire sommairement, c'est une sorte de jeu de cartes qui permet petit à petit de relier les cartes les unes aux autres pour comprendre l'ensemble des mécanismes de cause à effet, hein, donc de l'activité humaine jusqu'aux conséquences, l'immigration, les maladies, enfin, les famines, etc. Ça, c'est le premier jeu de cartes. Et puis, on a un deuxième jeu de cartes qui, lui, consiste à offrir... Alors, ils travaillent par petits groupes, hein, groupe de 8, normalement. Ils prennent un jeu de cartes d'une soixantaine de cartes. Et là, ce sont plein d'actions ou de comportements qu'ils peuvent adopter. Bien entendu, on ne leur demande pas d'adopter les 60 comportements, ça va de soi. Mais ils peuvent choisir, réfléchir individuellement et en petits groupes de 8, de telle manière à ce qu'au débouché de cette réflexion, chaque groupe puisse dire, voilà, on a sélectionné 4 cartes actions. Globalement ce que ça va nous coûter comme difficulté, voilà les avantages qu'on va en tirer, voilà ce que le groupe dans l'entraide va pouvoir apporter, de telle façon à ce que quelque part il y ait ce côté un peu ludique et solidaire dans une mise en œuvre qu'évidemment on souhaite la plus importante possible. Voilà pour faire très très sommairement la présentation du schéma général de ces forums.
Alors, pour cet accès à ce forum pour les jeunes, vous êtes allé au-devant des établissements scolaires, au sens large, comme vous le dites. Comment s'est articulé avec ces structures, ce lancement de forum? Il y a aussi un soutien politique, de collectivité, voire d'un ministère sur cette démarche?
Alors oui, en petite partie, quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif parce que on a démarré un peu avec les moyens du bord et nous n'avons pas beaucoup travaillé cette question-là jusqu'à maintenant. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous avons un plan ambitieux 2022-2024 et là, effectivement, nous nous tournons vers un certain nombre d'institutions pour participer au financement.
Ce forum a déjà débuté hein, depuis 3 semaines, vous disiez. Quel est, je veux dire, l'intérêt des jeunes qui côtoient ces forums? Est-ce que vous en avez des retours? Et puis, est-ce que c'est aussi un moment de dialogue? Certainement, hein, dans ce terme forum. Et puis, je voulais savoir si ces jeux de cartes aussi étaient en quelque sorte une sorte de gabarit pour pouvoir situer un peu ce qu'est l'écologie aujourd'hui, les contraintes qui sont amenées à être prises par les États prochainement aussi. On peut parler du COP26 hein, dont on sort. Est-ce que d'ailleurs le COP26 était un sujet de discussion sur ce forum?
Alors, pas au premier plan, hein. Je réponds par la fin, hein, parce que comme ça, au moins, c'est peut-être plus simple, mais pas fondamentalement, parce que ce qui nous a paru important, c'est d'aborder avec nos jeunes ce qui les concerne directement. On n'a pas du tout été sur un plan plus, allez, on va dire, politique. Qu'est-ce qui se passe à la COP, quels sont les résultats, est-ce qu'on peut être satisfait ou pas, en fait, etc. On a évoqué la COP comme on évoque le GIEC, comme on évoque l'IPBES, bien entendu. Mais fondamentalement, on a voulu être dans un ancrage concret, direct. Hein. Par exemple, dans le jeu de cartes, on a créé un certain nombre de cartes d'impact qui sont visibles là dans la Drôme, de telle manière parce que ce n'est pas l'autre bout du monde, ce n'est pas la famine en Afrique, ou par exemple, c'est ce qui se passe dans la Drôme. Non pas qu'on se désintéresse du reste, mais c'est pour être vraiment dans du concret qui touche directement nos jeunes ici. Donc, voilà pour répondre à votre dernière question, parce qu'il y en avait plusieurs. Alors, sur le plan de la pédagogie, c'est toujours un peu plus délicat de répondre parce que, je dirais spontanément, nous sommes très satisfaits du succès que nos forums ont remporté jusqu'à maintenant. C'est toujours un peu délicat parce qu'on peut se dire on veut embellir la mariée. Bon, franchement, ce n'est pas le cas. Je dois dire que pour les quatre cycles que nous avons faits au printemps, les questionnaires d'évaluation, questionnaires anonymes, nous ont mis tout le temps, on peut dire tout le temps, dans les quatre établissements, une note moyenne qui est entre 7 et 8 sur 10. Donc, ça veut dire que globalement, ils étaient contents. Et nous pensons que c'est tout à fait sincère. Je pense que cette pédagogie interactive où les jeunes bougent, où ils vont manipuler des documents ou des cartes, ils tournent autour de la table, etc., ça rend la pédagogie très vivante. Et c'est vrai que, on peut le dire simplement, on a des retours très très positifs. Clairement, nous avons déjà refait trois forums depuis la rentrée, depuis fin octobre, et nous en avons une quinzaine en tout. Nous sommes exactement sur la même trajectoire, hein, avec une différence, c'est qu'on a tellement retravaillé la pédagogie et les outils pédagogiques cet été que, quelque part, on a eu un galop d'essai au printemps et quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, élaboré à partir de maintenant.
Le taux de participation, on peut avoir une estimation de ce qui a été accompli depuis ces trois semaines. Ça a touché combien d'enfants ou d'étudiants ?
Alors, on ne peut pas parler de taux de participation parce que ce qui se passe, c'est que les établissements nous disent, voilà, vous aurez telle classe. Hein. En nombre d'élèves, on en a touché 75 sur les trois demi-journées que nous avons faites. Hein. Alors, sur l'ensemble, sur en gros de 17, 18 ou 19 séances, nous aurons systématiquement deux fois les mêmes classes, puisque c'est deux modules d'une demi-journée. Hein.
À l'image d'une personnalité politique de la région qui s'est retirée en quelque sorte et qui s'est consacrée à la littérature pour jeunesse, je me demande si la jeunesse est beaucoup plus prenante sur ses intérêts de forum que les adultes. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de changer le monde en quelque sorte grâce à la jeunesse d'aujourd'hui, puisque à l'heure actuelle, au niveau des adultes, il y a un certain blocage, je crois, lié à la consommation et au bien-être matériel.
Alors, en réalité, je crois qu'il faut nuancer. C'est beaucoup plus ambivalent que ce que je viens d'entendre. D'un côté, des enquêtes ou des sondages d'opinion qui sont un petit peu décourageants. En ce sens que je n'ai pas du tout l'impression que la jeunesse soit plus sensibilisée ou mobilisée que les adultes. Donc on peut dire ça. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on peut dire que dans l'ensemble, et vous verrez, ça rejoindra un peu votre observation, dans l'ensemble, il y a quand même un niveau de sensibilisation modeste, mais modeste, je veux dire, en termes d'intensité, c'est-à-dire une préoccupation. Oui, il faut faire quelque chose pour le climat, en gros, quelque chose. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire ci ou ça? Et là, vous touchez à peu près les deux tiers de la population. Voilà, bien sonné. Donc, la première réponse qu'on peut faire par rapport à ça, c'est qu'il y a une certaine prise de conscience, mais elle est insuffisante en termes d'importance, de degré, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est beaucoup plus problématique et qui est très clivant d'ailleurs, c'est que il y a en gros deux catégories d'attentes quasiment opposées, en tout cas difficilement compatibles. C'est-à-dire qu'on a au fond deux parts à peu près égales dans l'ensemble de la population. D'un côté, ce que j'appelle les techno-croissantistes, c'est-à-dire des gens qui sont soucieux d'écologie, mais qui misent sur la croissance et sur la technologie qui va nous sauver, ce que personnellement je ne crois pas, et pour des tas de raisons que, si vous le souhaitiez un jour, on pourrait évoquer. Hein.
On pourrait parler justement de ce lancement de projet de 10 centrales EPR. Un exemple, par exemple. Oui, avec ses contradictions, d'ailleurs. Mais je vous laisse continuer.
Oui, oui. Mais c'est vrai, vous avez raison, avec ses contradictions, mais c'est très symbolique d'une certaine vision des choses, qui est, en quelque sorte, c'est cette part de la population qui pense encore qu'on va pouvoir faire face à la situation sans vraiment changer nos façons de vivre, grâce à la technologie. De l'autre côté, on a ce que moi j'appelle les écolos. Alors il y a deux catégories, il y a des écolos radicaux et moi je me sens plutôt dans la catégorie de ce que j'appellerais les écolos intégrés. C'est pas pour les opposer, mais il y a quand même une différence importante de comportement, parce que soit on a une position extrêmement radicale et qui marginalise beaucoup par rapport à l'ensemble de la société, ce que je ne peut pas personnellement concevoir, soit on considère que nos sociétés modernes, occidentales, ont quand même accumulé une masse de connaissances et de capacités au sein de laquelle il faut faire le tri entre ce qui est bon dans un avenir qui peut être très difficile et ce qui est mauvais, qui pourrait, par exemple, nous emmener jusqu'au transhumanisme, qui, pour moi, est une menace très importante. Ah. Donc, on voit que, en gros, allez, la population se divise en deux. Et donc, quelque part, c'est un peu l'opposition entre ceux qui ne veulent pas changer de façon de vivre et ceux qui sont prêts à changer de façon de vivre. Donc, il y a là une approche qui est, à mon sens, très importante. Et je fais une toute petite digression, parce que c'est une expérience par ailleurs que je mène également au niveau du laboratoire, en tant qu'ancien expert comptable, puisque j'ai été 43 ans expert comptable. Nous avons, à mon initiative et du laboratoire, fait une enquête auprès des 21 000 experts comptables de France, qui était tout à fait intéressant. Et là également, on voit bien que c'est une profession qui bascule très très majoritairement du côté de la technologie et donc c'est quand même aborder le sujet avec un risque qui pour moi est important. Donc il faut je pense que dans les années qui viennent le débat sur cette question très clivante est incontournable.
Donc, je reviens sur ce sujet. Vous parliez d'un terme techno, comment ?
Techno-croissantiste.
Hein ? Voilà, c'est un terme que je connaissais
pas. C'est de mon invention. Hein. Et en fait, c'est quoi ? C'est que c'est les personnes qui s'en réclament, en fait, sont des gens qui se réclament de la technologie et de la croissance. Hein, la croissance, on entend ça à la radio, à la télé, en permanence, la croissance, la croissance. C'est même effarant de voir à quel point il y a une forme de naïveté au plus haut sommet de l'État de croire que dans un monde fini, on peut avoir une croissance infinie. C'est effarant. Bon. Voilà pourquoi j'utilise le terme de techno-croissantiste. Je ne suis pas pour autant un adversaire de la technologie, loin de là. Simplement, je suis un partisan de ce que j'appelle le discernement technologique et scientifique, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui de technologie et des apports de la science dans certains domaines. L'exemple de la santé, évidemment, il est facile et personne ne peut le contester. Par contre, quand je vois la multitude des gadgets et des stupidités, et des appareils électroniques, etc., non seulement qui ne servent à rien, mais qui abêtissent les gens, je me dis qu'on manque franchement de discernement technologique. Donc je crois que ça aussi, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table.
Voilà, un manque de discernement, justement, on peut parler de ces EPR, ces 10 centrales qui seraient programmées en construction, alors que la première d'entre elles est toujours en retard de livraison, avec un surcoût phénoménal. Est-ce que pour vous, c'est une réelle utopie, ça, par exemple ?
Ouais, là aussi, il faut être nuancé. Comment dire ? C'est clair que l'exemple de l'EPR de Flamanville prête quand même à sourire vis-à-vis du sérieux de ceux qui des promoteurs du nucléaire, parce que on est enfin dans des dérapages de temps et d'argent qui sont colossaux, hein, où on multiplie par 3, 4, 5 les données quantitatives. Donc c'est absolument effarant. Alors, je veux bien qu'aujourd'hui, avec les petites centrales évoquées ces derniers temps par le président Macron, les choses puissent être peut-être un peu différentes. Mais quand même, ce que je pense, hein, qui est évidemment discutable, hein, mais d'une part, on est sur une lancée, on a des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité, certes, en quantité plutôt insuffisante par rapport aux besoins tels qu'ils existent aujourd'hui. Mais c'est là. Alors, on a deux attitudes. Soit on pense déjà les renouveler, ce qui semble être l'option choisie sur le plan gouvernemental, soit on se dit on a un peu de temps pour monter en puissance avec les énergies renouvelables. Positionnement qui fait partie de mes convictions, hein, en quelque sorte. Parce que je reste quand même très dubitatif vis-à-vis du nucléaire, parce que ces gens-là semblent oublier déjà qu'on a un problème crucial, vraiment crucial, c'est le problème de l'eau. Plus ça va, moins il y a d'eau. Et moins il y a d'eau dans les fleuves qui refroidissent les centrales, plus c'est un problème pour refroidir les centrales. Bon, donc déjà ça, on n'en parle pas. Ensuite, bon, le facteur risque, on en parle suffisamment, c'est même pas la peine que j'insiste. Mais après ça, d'abord, ces centrales coûtent cher, souvent plus cher que ce qu'on croyait. Et puis ensuite, eh bien, il va falloir, d'une part, les démonter le moment venu. Ça coûte beaucoup d'argent. Et ensuite, on est bien emmerdé avec les déchets. Bon, ça fait quand même beaucoup. Donc, certes, là encore, les techno-croissantistes qui croient donc à la technologie et à la croissance peuvent s'en réclamer et croire au miracle de la technologie. Bon, les réalistes deviennent somme toute bien naïfs. Mais, et ce sera mon dernier mot pour répondre à votre question, on en revient à la question du mode de vie. Si on prend les scénarios négawatts, qui sont très intéressants, eh bien, on sait bien que parmi les mesures importantes à prendre pour répondre à nos besoins, il y a justement à sélectionner parmi nos besoins ceux qui sont importants et ceux qu'on pourrait mettre de côté. Et donc, avoir besoin de moins d'électricité.
Ce besoin d'électricité va sans cesse augmenter par la numérisation, hein, à tous les points de vue, hein, que ce soit par les télécommunications, la radio, la télévision, les appareils ménagers, la gestion du quotidien et l'administration. Cela fait beaucoup à prévoir en production électrique. Est-ce que c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire de toujours aller vers plus, puisqu'il faut plus d'électricité, on va reproduire d'autres centrales nucléaires. Donc, Est-ce que ça pourrait, à votre avis, il pourrait y avoir un point d'arrêt à un moment sur un domaine, peut-être ?
Je réponds clairement oui, c'est pas un oui catégorique, mais pour moi, il y a un mur contre lequel on va finir par se cogner. Hein, vous n'avez pas cité la 5G, vous n'avez pas cité le streaming qui monte en puissance de façon considérable. Et puis, point que vous n'avez pas évoqué, mais où je suis effaré, c'est la voiture électrique. Parce qu'aujourd'hui, la voiture électrique, OK, quand il y a 1%, 2%, 3% du parc, on arrive à recharger les batteries de la voiture. Mais imaginons que le parc devienne, puisque c'est l'objectif, majoritairement électrique, ça pose des tas de problèmes. Les ressources en terres rares, en métaux rares, pour pouvoir fabriquer les composants et les batteries des véhicules électriques, ces ressources, on n'en a que quelques dizaines d'années devant nous, au mieux. Donc, on ne va pas très loin. Et la question de leur extraction et de leur recyclage est une question problématique, en ce sens que ce sont des activités extrêmement polluantes. Donc, si on ajoute à ça le fait que de rouler avec une voiture électrique, ça va pomper du courant en plus de manière colossale, on voit bien que, alors effectivement, sauf à faire des centrales pour produire du courant, ça ne tient pas la route, si je peux faire ce jeu de mots. Hein. Donc, on est bien obligé de se reposer la question du mode de vie et de dire, alors, où je suis pour la voiture, etc., tel que je viens de le dire, ou alors je m'aperçois que c'est totalement déraisonnable, que c'est même dangereux et qu'un jour ça peut nous péter entre les mains. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je dis, qu'est-ce qu'on fait ? D'une part, il y a la question des transports en commun. Et d'autre part, il y a la manière de vivre à proprement parler, au quotidien. C'est est-ce qu'on a besoin de prendre la voiture pour un oui ou pour un non, partir en week-end à 500 km. C'est sûr qu'on a besoin de revoir notre mode de vie. On a besoin d'imaginer des modes de vie beaucoup plus locaux et plus conviviaux là où on habite.
Vous parliez de ces jeux de cartes mis à disposition de ces élèves. C'est un outil qui permet pour l'élève quoi précisément ?
Deux jeux de cartes. Hein. Le premier, nous avons un certain nombre de cartes qui évoquent des phénomènes. La sécheresse, par exemple, ou les orages, ou la baisse de rendement des cultures. Ou la hausse des températures, ou l'activité industrielle, etc. etc. Bon. Et donc, le jeu consiste à organiser, à mettre en lien ces cartes pour pouvoir partir des causes et descendre dans les effets. C'est-à-dire qu'on a une cause première, c'est l'activité humaine. Elle se traduit par de l'industrie, de l'agriculture, des transports, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment elles fonctionnent ? Elles produisent des gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre provoque un réchauffement qui lui-même engendre ensuite des sécheresses, etc. Donc, ça leur permet de voir les enchaînements, de voir les boucles de rétroaction. Ils en parlent ensemble. Ils peuvent les commenter, ils peuvent mettre des flèches dans tous les sens. Ils s'informent, car ces cartes sont faites également pour leur donner de l'information. Bref, de donner une prise de conscience de ces mécanismes qui puissent donner envie de s'attaquer aux causes, bien sûr. Ça, c'est le premier jeu de cartes. Le deuxième, c'est à peu près le même nombre, une bonne soixantaine. Ce sont des actions ciblées. Par exemple, ne pas prendre l'avion, pour prendre quelque chose d'évident, de très marquant, hein, mais il peut y avoir des tas d'autres choses. C'est partir en vacances à vélo plutôt que de partir en voiture. D'acheter des fringues d'occasion ou de faire des échanges de fringues plutôt d'acheter des fringues qu'on ne met pas, etc. etc. Et donc, ce deuxième jeu de cartes, ça permet aux jeunes d'en sélectionner. Ils mettent sur la table ces 60 cartes. Chaque jeune choisit 2, 3 ou 4 cartes qui lui causent plus que les autres. Il va réfléchir à la façon dont il pourrait intégrer ça à son action. Et ensuite, le petit groupe de 8 se réunit, ils échangent entre eux et ils sélectionnent 4 actions que le groupe veut privilégier. Et ça leur permet d'exprimer ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce qui me pose problème pour y arriver, en quoi la solidarité du groupe peut m'aider, de telle manière à rentrer dans une approche ludique et je dirais optimisante en quelque sorte, hein, de comportements qui sont, je le précise, l'objectif, ce n'est pas que sortant de là, ils aient pris toutes les bonnes résolutions une fois pour toutes. C'est surtout d'enclencher une dynamique positive, une envie individuelle de rentrer dans ces processus de modification de comportement individuel qui soit bon pour la planète.
Vous parliez de prise de conscience. Justement, je reviens sur ma question de tout à l'heure. Est-ce que la jeunesse est beaucoup plus apte à la prise de conscience que le monde adulte d'aujourd'hui et peut-être de réfléchir au lendemain ? Est-ce que pour vous, c'est peut-être un intérêt aussi, une manière à faire évoluer les mentalités par le biais de la jeunesse ?
Alors, effectivement, je crois que c'est important de les distinguer. Parce que, si vous voulez, concernant les adultes, à un degré ou à un autre, selon leur niveau de confort et leur niveau de vie, on va dire, ils sont installés dans cette façon de vivre. Et ils ont besoin de leurs revenus et de leur patrimoine ainsi constitué. Et c'est évidemment très difficile de s'en défaire. C'est pour ça qu'on a toute cette diversité d'opinions et de degrés de conscience que j'ai évoqué tout à l'heure. Les jeunes, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que, d'un côté, ils ne sont pas encore captifs d'un niveau de revenu, d'un niveau de patrimoine. Donc, ils ont quand même, de ce côté-là, une plus grande liberté. Mais quand même, la manière de vivre de leurs aînés constitue un mirage très, très puissant qui les entraîne quand même malheureusement trop dans cette direction. Et soyons honnêtes, hein, moi je suis l'exemple parfait, ayant une situation relativement aisée, je suis l'exemple parfait du mauvais exemple auprès de mes petits-enfants. Hein. Donc je ne suis pas en train de critiquer les autres, c'est un état de fait. Donc, on s'aperçoit que c'est difficile et que c'est d'autant plus difficile que c'est très tentant, et on en fait beaucoup le constat dans ces forums, c'est qu'il y a une tentation à la fois du déni et de la victimisation. De dire, ben oui, mais c'est parce que c'est les adultes, avec la vie que vous avez eue, c'est de votre faute, etc. Ce qui, évidemment, fait, dès lors qu'on se sent victime, on n'avance pas. Hein. Donc, ce n'est pas le bon plan. D'où l'importance, dans notre pédagogie, de partager des émotions relativement fortes, suscitées par cette situation quand même très inquiétante. C'est-à-dire de partager, de considérer qu'on a la même inquiétude, même si ça va beaucoup plus longtemps durer pour eux, mais de bien partager ça. Et en même temps, donc à la fois, donc c'est à des fois un peu de l'équilibrisme, hein, si je peux dire, parce que ce n'est pas du tout un raisonnement binaire, hein, c'est toujours en nuance, c'est à la fois de pouvoir parler de tous ces éléments extrêmement inquiétants, et en même temps de pouvoir leur faire partager la foi que nous avons que un autre avenir attractif est possible. C'est subtil, hein, c'est subtil. Je le répète, ça ne s'accommode pas du tout du raisonnement manichéen ou binaire qui prévaut trop souvent. Hein. Donc c'est tout en nuance. Je dirais que la chaleur, le climat entre les élèves, leurs enseignants, et il y a de très bons enseignants hein, dans nos partenaires, et nous-mêmes, quelque part, ça me paraît être quelque chose de très important, qu'il faudra probablement développer.
Ces forums, justement, en parlant de développement, est-ce qu'ils tendront à s'amplifier dans les établissements scolaires? Est-ce que c'est un projet pilote à l'heure actuelle et de manière à peut-être l'améliorer encore? Et qu'en est-il alors de ces forums?
C'est clair. Pour moi, c'est un projet pilote dont nous avons l'ambition de donner beaucoup plus d'ampleur et que nous allons faire évoluer parce que, bien entendu, le perfectionnement sera infini. Mais oui, c'est bien notre ambition. C'est pour ça, par exemple, qu'on a accepté volontiers de témoigner au colloque de la revue Alternative Économique pour justement donner des moyens, des envies et des idées à d'autres adultes, dans un esprit de coopération et de partage que nous avons. Que d'autre part, c'est trop tôt pour en parler, mais nous avons déjà dans les tuyaux deux autres projets ambitieux qui viennent compléter, prolonger ces forums. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que dès le 5 février de l'année prochaine, nous allons faire un interforum à Livron, qui réunira des élèves, des élèves de chacune des classes participantes pour qu'ils se connaissent, qu'ils dialoguent, qu'ils puissent là conclure ensemble sur un certain nombre d'éléments qui seraient les plus forts. Tout ça en vue d'une communication destinée à interpeller le monde des adultes. Donc vous voyez, on est dans cette progression, hein, les forums, les interforums, et puis à partir de 2023, deux autres grands prolongements, notamment pour raccrocher les adultes au wagon.
Pour ce qui est des soutiens financiers pour ces projets, ces programmes, ils émanent de quel organisme ou de quelle collectivité?
Il n'y a pas de tabou hein, sur le sujet. Il y a un certain nombre de donateurs qui nous font confiance et je le dis qu'ils me font confiance. Donc ça apporte déjà une première source de financement. D'autre part, nous avons certaines collectivités qui sont intervenues, hein, pour les citer, le département de la Drôme, la mairie de Die. D'autre part, nous avons fait un financement participatif avec, grâce à Clubter, très présent ici et qui a porté ses fruits. Et puis, j'irai dans mon réseau amical et relationnel, dont moi-même, bien entendu, nous apportons une petite contribution. Étant précisé quand même, parce que ça peut interpeller quelques-uns de vos auditeurs, l'association est reconnue comme association d'intérêt général et les dons sont défiscalisés à hauteur des deux tiers. Donc ça veut dire que quand je donne 100, en réalité, je récupère 66 de réduction d'impôt. Donc ça aide quand même beaucoup. Hein.
Ces forums ont peut-être éveillé une prise de conscience hein, chez les enfants ou les étudiants. Ça vous touche, justement, quand les enfants pensent autrement avant de venir à ces forums?
Oui, c'est une question, je vais dire presque intime. Mais d'abord, je crois que je vais répéter ce que nous entendons dire. J'ai appris pas mal de choses, hein, donc ça, c'est clair. Alors, vous avez dit, est-ce que ça vous touche? Ben oui, ça me touche beaucoup, si vous voulez, parce que on sort du domaine de la rationalité. On est sur l'aspect émotionnel qui est souvent maltraité, si je peux dire. Or, ça fait du bien intérieurement de se dire que oui, j'ai apporté quelque chose d'utile, qui a du sens, qui est reconnu. Alors, quand je dis reconnu, c'est pas pour la reconnaissance, mais c'est que la mayonnaise, elle prend. Et donc, que quelque part, notre action, elle a sa pertinence. Donc oui, ça me touche beaucoup. Et je me plais à dire que, quelque part, c'est l'un de mes carburants les plus importants.
Tout à l'heure, vous citiez à Livron un rendez-vous en février, je crois, avec un interforum. Mmh. Ce sont des forums à l'image du vôtre qui seraient sur d'autres thèmes et qui seraient en articulation.
Alors, c'est le prolongement, l'interforum est le prolongement des forums, hein, avec les mêmes personnes. Probablement quelques adultes qui vont, entre guillemets, débarquer, adultes observateurs actifs, de telle manière à ce que, justement, on fasse le lien avec le monde adulte. Mais c'est vraiment le prolongement des différents forums, avec ce souhait que ça puisse, là aussi, alimenter cette dynamique que, vous l'avez compris, nous souhaitons étendre, bien sûr.
Pour en savoir plus, il y a certainement un site internet pour découvrir vos activités.
Alors oui, on n'est pas très bien organisé là-dessus.
C'est un peu le prolongement de votre démarche, hein, sur cette prise de conscience,
oui.
De ne plus trop utiliser le numérique, peut-être.
Non, c'est pas ça. C'est le manque de temps et de moyens. Mettre en place un site, c'est une chose un peu lourde. Et simplement, pour les personnes qui seraient intéressées, qui voudraient d'ailleurs me contacter, je leur propose de passer par un site que j'anime depuis un certain nombre d'années, qui est très simple, qui s'appelle Amadeor, amadeor.fr. Qui a une vocation qui était antérieure et un peu différente du laboratoire, mais qui sert utilement pour la publication d'un certain nombre de documents que nous faisons, par exemple, et où figurent les coordonnées pour pouvoir me contacter.
Jean-Louis Vira, je vous remercie en tout cas d'être venu nous parler de ces forums jeunesse qui sont actuellement en cours et qui se termineront au premier trimestre 2022. Par la suite, il est en prévision d'autres reprises de forums ou alors peut-être un nouvel aspect de ces rapprochements et de ces prises de conscience de la biologie, de l'écologie.
Ah ben, très clairement, nous allons continuer et amplifier pour une raison bien simple, c'est que quand on anime, on est toujours deux animateurs expérimentés et nous avons un, deux ou trois animateurs observateurs qui viennent prendre en main la pédagogie, les outils, les sources d'information, etc. Ce qui veut dire que à la rentrée 2022-2023, notre équipe, on aura une belle équipe, d'animateurs de 6, 7 ou 8 convaincus, passionnés. Donc ça va s'amplifier.
Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Eh bien, moi également, et en vous remerciant.
Au revoir.
Au revoir.